1917, le jazz déferle sur le vieux continent. L'avez-vous reconnu? Eh oui, c'est la Marseillaise. Quand le 27 décembre 1917, le lieutenant James Reese Europe et son brass band débarquent à Brest, c'est une véritable entrée en fanfare. Il faut bien quelques minutes avant que les soldats et la foule de civils rassemblés sur les quais reconnaissent leur hymne national. Imaginez-vous l'atmosphère. Nous sommes en plein hiver, dans un pays dévasté par la guerre. Les batailles de Verdun et de la Somme ont meurtri à jamais les populations. Il y a une véritable lassitude des soldats et des peuples en guerre. Le moral des troupes est au plus bas. C'est la fin de l'illusion d'une guerre courte et facile. Des grèves et manifestations se multiplient dans tous les pays. La colère gronde dans les queues devant les magasins vides. La fatigue des peuples est la grande caractéristique de l'année 1917. L'année du tournant de la Grande Guerre, le débarquement des Américains en Europe. J'attends les chars et les Américains, déclare le général Pétain en décembre 1917. Eh bien, il aura le jazz en supplément. Mais qui sont ces soldats musiciens afro-américains qui vont bientôt propager à travers tout le pays une musique pleine de liberté aux rythmes endiablés? Soutenir le moral des populations minées par 3 ans d'horreur, grâce au jazz, cette musique du monde entier, telle fut la mission de ce régiment. Lors de l'entrée en guerre des États-Unis, James Reese Europe est le chef d'orchestre de danse le plus réputé à New York. C'est lui qui initie le pays au foxtrot, première danse de salon américaine. Son orchestre est la première formation noire à se produire sur la scène du Carnegie Hall en 1912 et à pénétrer dans un studio d'enregistrement en 1913. Lorsqu'il s'engage comme soldat, il convainc son commandant de l'importance de la musique et des parades dans le maintien du moral des troupes et réussit à organiser un orchestre de 44 musiciens au sein du 15e régiment. Sur fond de discrimination persistante, d'humiliation et d'incidents racistes, le régiment est finalement envoyé en France et entre dans la rade de Brest sur le USS Pocahontas, ce fameux 27 décembre 1917. Les Français vont immédiatement les intégrer dans leur armée et les surnomment les Harlem Hellfighters, les combattants de l'enfer venus de Harlem. Cette mixité représente durant leur séjour en France une parenthèse inespérée qui se referme dès leur retour sur le continent américain. Après plus de 191 jours de suite dans l'enfer des tranchées, plus qu'aucun autre régiment, ils reçoivent l'ordre de se rendre auprès des soldats dans les camps et les hôpitaux pour les divertir. Chaque fois que nous nous arrêtions pour croiser un train de troupes ou de blessés, nous descendions toujours et nous jouions volontiers. Tant de cris de joie et de sourires nous faisaient croire à notre mission en France, distraire ceux qui avaient supporté l'horreur de la bataille. Ainsi se confie Noble Cecil, célèbre pianiste et chanteur, alors percussionniste dans ce régiment d'infanterie peu banal. Le 18 août 1918, il donne un mémorable concert au Théâtre des Champs-Élysées, suivi d'une grande fête au Jardin des Tuileries, le 25 août. La guerre terminée, les officiers et les hommes du 15e régiment d'infanterie de la Garde nationale de New York rentrent au pays. Malgré tous leurs actes de bravoure, ils ne seront pas célébrés à la hauteur de leur héroïsme. La ségrégation raciale aux États-Unis aveugle le peuple américain. Certains choisissent de rester. La France est pour eux une terre de liberté. Conquis par ces rythmes furieusement syncopés, les Français veulent oublier et danser. Bientôt arrivent des spectacles venus de Harlem et tout particulièrement la célébrissime Revue Nègre qui fit de Joséphine Baker la coqueluche du tout Paris.